Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cordialement, Zoé.
Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir la seule et l'unique Elisa Parent. Vous avez forcément déjà vu une de ses photos sur le compte Insta de votre rappeur ou de votre joueur de foot préféré parce qu'Elisa, ça fait 10 ans qu'elle est photographe et elle a su faire sa place dans un monde très masculin qui est le monde du rap et du sport de haut niveau. Alors aujourd'hui, on va parler de son parcours, de comment elle en est arrivée là, les moments forts de sa carrière et elle va aussi nous dévoiler les backstage de ce métier assez atypique. Je suis sûre que vous avez tous super hâte de découvrir ce qu'elle a à nous raconter. Donc, sans plus attendre, on accueille Elisa.
Bonjour.
Ça va?
Bienvenue, toi.
Bienvenue sur mon petit podcast.
Merci.
Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie?
Déjà, tu m'as saucée. Hein. Franchement, quelle belle présentation. On dirait une autre vie. Enfin, on dirait pas moi. En tout cas, pas la mienne.
Mais si.
Ça y ressemble un peu, effectivement. Écoute, moi là, j'ai quel âge? J'ai 29 ans.
Ok.
Donc, je m'approche de la trentaine, ça vieillit.
Mais non.
Et je suis photographe de profession. Après, je fais pas que ça, je fais plein d'autres trucs. Mais là, si on parle principalement de mon activité de photographe, voilà, j'ai commencé, je sais pas, j'avais 19 ans. Un peu par hasard, en fait, la photo, j'ai toujours adoré ça. Mais vivant en Suisse à ce moment-là, parce que je suis née en Suisse, je pensais pas que ça pouvait être vraiment un... Enfin, pour moi, c'était un métier un peu chiant, tu vois. J'avais l'impression que la photo, c'était les pubs.
Ouais, et puis il y a 10 ans, il n'y avait pas les réseaux, c'était encore moins développé, quoi. C'était que le journal, les
pubs.
Mais
c'était presque en train de mourir, j'ai envie de te dire, ouais. Le métier. On me disait non, mais il n'y a pas d'avenir dans ce métier et tout ça. Donc voilà, je suis rentrée dans une école d'art, j'ai osé me lancer, j'ai été prise à ma grande surprise. Et ça a été un peu la révélation, parce que du coup, je me suis sentie un peu légitime de tester à faire des photos. Et c'est pendant cette première année d'école, en fait, que j'ai commencé à aller à droite, à gauche, envoyer des mails.
Ok.
Demander des accréditations pour shooter des concerts, des accréditations pour le foot en Suisse aussi. Donc ça a commencé un peu par là.
Et comment justement t'as su te faire ta place? Parce que t'envoyais des petits mails comme ça, est-ce que les gens ils étaient hyper réceptifs dès le début, ils t'acceptaient ou t'as dû un peu leur prouver que bon bah regardez quoi, je fais pas juste des photos avec mon téléphone et voilà quoi.
En fait à ce moment-là, dis-toi c'était genre 2012. En fait, vu que j'étais dans une école d'art, c'était un peu plus facile parce que quand j'envoyais un mail, je disais oui, je suis dans une école d'art. C'était une école assez connue de photos en Suisse. Donc en fait, les gens, ils étaient ouverts à... C'était comme ils laissaient une étudiante venir, tu vois. Donc en gros, j'étais pas payée. Donc eux, c'était bénef pour eux. Je leur disais, je vous envoie les photos et tout. Et... Alors après, j'ai eu plein de mails où j'ai jamais eu de réponse. Hein.
Ouais.
J'ai envoyé plein de mails. Mais les deux, trois où j'ai eu des réponses, tu vois, genre j'ai continué, j'ai prouvé que j'étais capable... J'étais ultra motivée. Genre, franchement, je comptais pas mes heures. Tous les week-ends, je shootais les matchs de foot, les concerts. Au début, c'était en Suisse. Et après, j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours en France pour continuer à shooter les artistes de rap que j'avais rencontrés.
Okay.
Et aussi, je suis arrivée à un bon timing. C'était le début des réseaux sociaux. Il y avait déjà bien Facebook, mais tu vois, c'était le début d'Instagram. Donc, en fait, à ce moment-là, les gens sur Insta, ils postaient vraiment leur lifestyle un peu... bidon, c'était les tout premiers Insta où il y avait des filtres.
Ouais, les filtres.
Tu montrais vraiment un peu ta vie privée, ton assiette, enfin, même si ça existe encore, mais un peu mieux fait.
Beau, genre.
Voilà. Là, c'était un peu la première fois que les gens, ils postaient des photos professionnelles, tu vois. Et même les artistes avec qui je bossais, c'était un peu la première fois. J'étais en mode, mais faut te faire un compte Instagram, c'est important et tout, tu vois. Pas tout le monde avait des comptes Insta.
Ok.
Donc, c'est un peu le début de Instagram. C'est aussi une vitrine professionnelle pour toi en tant qu'artiste ou sportif. Et c'est important de créer du contenu inédit.
Et donc, c'est comme ça, en fait, t'as pris un jour une photo, un mec a kiffé, il l'a posté, et après, de fil en aiguille,
c'est
du coup, les gens t'ont connu et te...
C'est vrai, et ça a commencé, je me rappellerai toujours, tu sais, la première fois que t'as un peu plus de notifications que d'habitude quand tu es inconnu sur les réseaux, c'est parce que je postais des photos de tennis sur Twitter. Et en fait, c'est vrai que j'avais shooté Federer ou Wawrinka, qui sont des grands joueurs de tennis suisses, et j'avais... plein de commentaires de gens fans d'eux. Je sais même pas comment ils tombaient sur les photos. C'était un peu un mystère pour moi, parce que j'avais pas du tout beaucoup d'abonnés. Et j'étais en mode, oh, trop marrant. En fait, les gens, ils attendent des photos de ces gens connus. C'est vrai, quand t'es fan de quelqu'un, t'es toujours à la recherche de trucs exclusifs et tout ça. Et c'est comme ça que ça a pris petit à petit. Sur Instagram, un peu la même chose. Comme je te dis, au début, on était beaucoup moins de photographes sur les réseaux. Donc, il y avait un boulevard devant moi, tu vois. Mmh. En vrai, j'étais un peu une des... Je suis un peu une ancienne, on va dire ça, même si j'ai moins de 30 ans. Mais en 10 ans, ça a tellement évolué que c'est plus la même chose maintenant, tu vois.
Ouais.
Je suis un peu une ancienne, mais en même temps, t'as ce truc où t'es en mode... Mais en fait, t'ouvres la voie et tu remarques que tous les gens après toi, ils ont appris de ton expérience et ils sont plus forts que toi, tu vois. Mmh, genre, il y a un peu ce truc d'ancien que
non,
tu peux dire.
Non, puis c'est toi des deux côtés qui est un peu ouvert, en mode t'as permis à d'autres photographes de se rendre compte que, bah oui, sur les réseaux, ça apporte un nouvel air et il y a des choses à faire, mais aussi aux personnalités de se dire, ah, mais en fait, bah, c'est important d'avoir justement des belles photos, des beaux trucs et t'as directement été prise au sérieux par eux, du coup, ou est-ce qu'ils te regardaient un peu en mode, ouais, fais des photos et voilà.
Bah, au tout début, pas hyper au sérieux. Enfin, j'étais dans une école d'art. Moi, je voulais juste qu'on me respecte, tu vois, il y avait pas... Donc non, je pensais pas qu'ils me voyaient comme une méga photographe. Ils étaient en mode, bon, on laisse l'opportunité, elle est déterre, elle nous envoie les photos, tu vois, c'était un peu comme ça. Et le respect et tout ça, c'est venu... Enfin, ils me respectaient, tout le monde m'a respecté de base à première vue, mais tu vois, la confiance, ça s'est construit. Ça s'est construit petit à petit, en montrant aussi que ton image, tu peux me la confier, je vais pas faire n'importe quoi, je vais pas poster pour avoir des clics ou des trucs comme ça, je veux que les photos qui sortent, ce soit des photos où tu te valides, tu te trouves bien, tu vois. Pour moi, c'était important parce que moi, qui suis quelqu'un qui ne suis pas forcément à l'aise avec mon image, je peux vraiment comprendre ce que c'est, tu vois, de ne pas maîtriser son image et d'avoir un manque de confiance en soi sur ça. Donc, en fait, je fais vraiment attention.
Oui, c'était pas... Tu ne voulais pas faire le truc de la paparazzi qui prend en photo dans les trucs
hantise.
Et tout. Ouais.
Franchement, je respecte hein, ceux qui font ça. C'est un métier comme un autre. Mais ça, c'est vraiment... En fait, je déteste déclencher si toi, tu n'es pas OK et tu ne sais pas ce qui se passe.
Ouais, c'est vrai.
Parce que ça peut te paniquer, tu vois. Déjà, si t'es pas à l'aise, tu dis, mais attends, la photo, ça va sortir où? Comment? Je peux même pas regarder. Enfin, donc, ouais.
Et t'as une photo qui a vraiment marqué un tournant dans ta vie ou une photo qui t'a marqué, dont tu te souviens vraiment du moment et de ce qu'elle a provoqué?
Oui, alors, j'ai une photo en particulier qui me vient parce que c'est vrai que ça a été... Enfin, encore aujourd'hui, on m'en parle beaucoup quand on parle de mon travail. C'était la tournée de Nekfeu. Donc, je crois que c'était 2015 ou 16, je ne me rappelle plus. 15, c'est possible. C'était le Fnac Live Festival, tu vois. Donc, okay. Je ne sais pas si tu vois où c'est. C'est à la mairie. Je crois que c'est
oui,
à la mairie.
C'est ça, ouais. Un truc.
Voilà. La mairie de Paris, ouais, c'est ça,
ouais,
je crois.
Oui.
C'est énorme, tu vois. C'était vraiment fou. Et pourquoi est-ce que je me rappelle? C'est juste que j'avais fait beaucoup de concerts avec Nekfeu. Du coup, c'était hyper chorégraphié. Je savais où me placer pour avoir des bonnes photos qu'il aimait et tout ça. Et il y a un moment. Lui, il adorait sauter dans la foule, tu vois.
Okay.
Donc, en fait, il y a un moment, c'était pendant tous les concerts, je voulais vraiment pas rater cette photo de lui qui saute dans la foule. Et à ce concert-là, on a fait une photo qui était un peu iconique. Les gens, ils ont kiffé direct. Et en fait, en la shootant, en appuyant sur le bouton, j'étais en mode, oh là là, je me réjouis déjà de l'éditer, tu vois. Et dès qu'on est rentré dans les loges, je lui ai directement montré. J'étais sûre, tu vois, j'étais en mode, non, mais c'est ouf et tout. Je suis trop bien placée. Puis, il y avait une foule tellement énorme que ça fait vraiment... une foule à l'infini, et il est bien placé sur les gens, et il fait le signe du escrew, tu vois, qui est son groupe. Et du coup, ouais, celle-là, elle m'a... Parce qu'on m'en parle beaucoup encore de cette photo aujourd'hui, tu vois.
Ouais, elle t'a vraiment fait aussi connaître à beaucoup de personnes qui te connaissaient pas encore.
Oui, et puis je l'ai print en énorme lors de mon premier expo, genre en 2015 ou 16 du coup, je crois.
Okay.
Et je l'ai laissé dans le studio Blackbird, qui est le gars qui travaille beaucoup avec Nekfeu, donc c'est dans leur studio là-bas.
Ah putain, j'adore.
Ouais, c'est cool.
Putain, bah, bravo, j'irai voir la photo après.
Si tu la connais pas, faut que tu la vois.
Ouais, non, c'est vrai, c'est important. Est-ce que t'as une anecdote, autre que du coup une photo, qui t'a marqué dans tes débuts, dans tes débuts du métier, quoi?
Alors, une anecdote, enfin, j'ai un peu plein d'anecdotes, mais j'essaie de me réfléchir.
J'avoue que t'as dû en vivre des choses.
Hein. J'en ai plein. Alors après, ça dépend quel genre d'anecdote est-ce que je pourrais donner, drôle ou pas drôle.
Je sais pas, un truc drôle.
Un truc qui s'est passé à un concert en Guinée avec MHD, ça c'était super marrant. En gros, je sais pas, j'étais... Enfin, déjà, c'était en Guinée, il y avait énormément de monde, parce qu'il est à moitié guinéen. Donc en fait, c'était hyper... Il y avait une espèce d'atmosphère tendue, tu vois. On est arrivé au dernier moment, on devait partir direct après le concert. Et en fait, pendant le concert, il y a quelques fans qui arrivaient à monter sur la scène et tout. Yes. Et moi, ça me faisait stresser, tu vois, parce qu'ils sautaient sur lui et tout. Et en fait, une fois, il y a un gars, donc il lui saute dessus et il lui fait un câlin, mais il lui fait un peu une clé de bras en même temps. Il essaye de continuer de chanter et moi, je suis un peu derrière en train de prendre des photos et ça m'a fait paniquer. Et j'ai vraiment senti un peu le danger. Donc en fait, je me suis pris pour un agent de sécu. J'ai sauté sur la scène et j'ai essayé de tirer le bras du gars juste au niveau de son cou, tu vois. Là, en fait, il y a les sécu qui sont carrément venus en même temps. Donc le gros sécu de 2 mètres, là, il a tiré le bras du gars. Et moi, vu que j'étais accrochée au bras, bah, je suis tombée avec, tu vois. Et je me suis effondrée sur la scène. Et les potes derrière, tout le monde se foutait trop de ma gueule et tout. Genre vraiment, c'était, je me suis affalée dans un, au milieu, sur la scène, au milieu de, du stade et tout. C'était assez ridicule, mais ça m'arrive, ouais, de tomber parce que j'ai peur, tu vois. Je suis très attentif, en fait, aux artistes avec lesquels je travaille. Je suis un peu presque, des fois même un peu assistante.
OK.
Parce que j'arrive hyper bien à cibler le besoin des gens. Donc, en fait, en tant qu'artiste, j'arrive direct à savoir les bouteilles d'eau, les serviettes, même quand c'est, ils sortent de scène, hop, tac, tac, tiens, prends-ci, prends ça, tu vois. Je suis un peu en mode maman.
Ouais, t'as plusieurs casquettes, en fait.
Exactement.
T'es un peu la petite personne derrière qui fait tout.
Ouais,
qui...
bah, je me suis habituée, donc forcément, j'arrive bien à comprendre les besoins des gens.
Et justement, quand tu pars en tournée comme ça avec des artistes, c'est quoi le quotidien Enfin, tu fais quoi, en fait, autre que les concerts?
Donc, au général, par exemple, si c'est des en tourbus, c'est que c'est plusieurs dates d'affilée ou 2 dates, après 1 jour de pause et après 2 autres dates. En général, du coup, c'est la veille du concert, on a rendez-vous dans Paris. Il y a plusieurs rendez-vous où il y a les tourbus qui peuvent se poser. C'est à minuit. Okay. Donc, on a rendez-vous tous à minuit. Et c'est trop marrant parce que c'est un peu le départ en colo, tu vois.
Ouais, j'avoue.
On se retrouve tous et puis on sait qu'on va bientôt dormir. Donc, tu sais, on arrive un peu en mode schlag, gros jogging, claquettes et tout. On va juste se chercher un petit truc à bouffer. On rentre dans le bus. Le bus, il roule. Et là, ça se parle un peu. Tout le monde est content de se retrouver, tu vois. Puis en général, les bus, je sais pas, on est... On peut être des bus à 13, 14, comme à 20, tu vois, ça dépend de la grandeur des bus. Ouais.
Ah, c'est quand même beaucoup.
Ouais, c'est énorme. Donc, tu vois, t'es là, tu discutes, c'est des moments hyper sociaux, c'est trop bien. Franchement, c'est génial. Après, on va se coucher, souvent tard, et on se réveille... Enfin, moi, personnellement, je me réveille souvent tard. Du coup, midi, je me réveille, le bus, il est arrêté. Dans le parking d'un festival, des fois, je sais même pas dans quelle ville je suis, tu vois. Je me réveille, on se check un peu, les gens qui sont encore dans le bus... On est en mode, vas-y, on va au catering directement, tu vois, on va au catering, donc c'est où on
là
va
où
manger.
On mange, ouais.
Exactement. Et après, on chill un peu, il y a les balances, tu vois, on va faire un peu les balances, on reste entre nous, on reste dans le village des artistes, souvent il y a des petits trucs à faire et tout. Ou alors on se pose dans le bus, les artistes ils font des siestes, tu vois, enfin voilà. Et après, le concert commence, donc moi, je prépare mon matériel, je décharge mes cartes mémoire si elles n'étaient pas déchargées, tu vois, mes batteries, je fais en sorte qu'elles soient toutes bien chargées. Après, le concert commence. Après, en général, si on doit enchaîner le lendemain sur une autre date, on dit le tourbus départ à 1h du matin maximum.
Ah ouais, directement le
oui,
soir.
Oui, souvent, hein. C'est ça. Si on doit, s'il y a beaucoup de routes, le chauffeur, il doit partir assez vite. Donc voilà, on attend que toute l'équipe technique ait remballé la scène, tout ça.
Ouais, parce qu'à chaque fois, dans les tourbus, t'as aussi les camions qui emportent les décos de la scène, les trucs et tout.
Alors, selon les artistes et selon leur setup de scène, ça dépend vraiment. Par exemple, avec Grilles, sur la dernière tournée, on a 2 énormes tourbus, un pour les techniciens et un pour nous, artistes, danseurs, musiciens. Et après, tu as 2 camions avec les décors.
Ah ouais, donc c'est en fait c'est un gros convoi.
Oui, c'est un gros convoi, ouais.
Ok, ah, je pensais qu'il y avait les choses du festival que tu utilisais.
Il y a des trucs de base, mais après, il y a toute ta scénographie que tu dois ramener à chaque fois. Ça dépend des artistes. Il y a des gens, ils ont des coups plateaux. Ça s'appelle un coup plateau. Combien ça coûte de te produire en concert? Il y en a, c'est 5 000 euros. Il y en a, c'est 40 000 euros.
Ok, en fonction de ce que des besoins matériels, des trucs.
Ouais, des directions artistiques de ton show. Il y en a, ils travaillent, ils ont juste des DJ et ils rappent comme ça. Il y en a, ils ont des méga scènes. Il y en a, ils ont des musiciens, des danseurs. Ça dépend, tu vois.
Ok, ah, je ne savais pas du tout. Donc, du coup, après, vous repartez dans l'autre ville et rebelote pendant.
Exactement.
Pendant un mois, ça dure combien de temps une tournée?
En général, moi, j'ai fait souvent des 2 semaines sur la route. Après, on rentrait quelques jours, on repartait 2 semaines. Et ça dépend. Il y a un moment donné dans ma vie où c'était vraiment ça, pendant 3 ans, quasiment tout le temps. Okay. Il y avait les tournées en hiver. Après, t'avais des fois une petite pause, on repartait en tournée. Après, t'avais les festivals l'été. Après, je partais avec un autre artiste au mois de septembre, décembre, une autre tournée. Donc, il y a un temps où j'enchaînais ça, je faisais que ça.
Et maintenant, c'est fatigant.
Ouais, c'est fatigant parce que moi, je suis un peu introvertie, donc j'ai besoin de moments où je dois m'isoler. Et dans un bus avec 15 ou 18 personnes, c'est compliqué. Où il y a beaucoup de bruit, je suis souvent la seule femme. Donc, c'était dur. J'ai vraiment des souvenirs, des fois, de moi qui me couche dans la couchette du tourbus quand tout le monde n'est pas dans le bus. Enfin, j'étais un peu seule dans le bus l'après-midi. ou juste avant de monter sur scène, genre une heure avant de monter sur scène. Et tu sais, je me pose dans ma couchette et je pleure. Je me rappelle vraiment de moi qui pleure. Mais j'étais pas triste.
Pour décharger, en fait, les
trucs. Je crois que j'avais besoin. Il y avait beaucoup, en fait. J'avais beaucoup d'énergie. Il y avait beaucoup de trucs qui se passaient. Puis j'étais jeune aussi. Donc il y avait plein de trucs qui se passaient. Que j'étais en mode, wow, ok. J'avais beaucoup de choses à anticiper, donc ouais, j'avais des petits craquages, mais bon.
Ouais, et puis c'est beaucoup de bruit, de trucs, d'orgas, de monde, machin. En vrai, même moi, quand je vais en soirée, au bout de trois soirées de suite, je suis en mode, laissez-moi dormir une semaine, en fait. Alors ouais, là, c'était pendant deux semaines.
C'est ça. Mais quand je rentre de tournée, en général, pendant une semaine, tu me vois pas. Hein. Je suis enfermée chez moi. Tu vois, je suis toute seule. Je suis en mode, laissez-moi tranquille. Je veux même pas parler. Je veux juste dormir, tu vois, genre me retrouver toute seule.
Et ouais, du coup, ouais, quand t'es pas en tournée, t'as des projets quand même. Je sais pas, pour des photos, genre un événement à Paris ou des trucs en Suisse ou...
Ça dépend des périodes de ma vie, mais oui, il y a un moment donné où, par exemple, un peu en même temps que les tournées, quand j'étais à Paris, je shootais beaucoup le Paris Saint-Germain.
Okay.
Ça fait un petit moment là que je travaille un petit peu moins avec eux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de développer quelque chose de différent. J'essaie de changer aussi les personnes avec qui je travaille. J'essaie de me rapprocher des femmes, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis de côté pendant 10 ans de ma carrière, début de carrière. Donc voilà, mais à l'époque, oui, ça jouait beaucoup. J'étais beaucoup ou sur les terrains de foot. Je pouvais faire pour des marques, tu vois, ou Adidas ou Puma, un peu des petites campagnes numériques avec des joueurs, des campagnes pour des maillots du Paris Saint-Germain. Sinon, oui, c'était beaucoup foot et rap, quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Je travaille avec des modèles, des influenceuses qui ont besoin de créer du contenu. Ça, j'aime beaucoup parce que du coup, shooter les femmes, c'est différent. Mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
En tant que femme, enfin, du coup, tu me disais, c'est un milieu très masculin. Parfois, t'étais toute seule, la seule femme dans le tourbus et tout. Comment t'as fait pour pas te laisser marcher sur les pieds et vraiment te, pour pas passer pour le cliché de la fille qui est là parmi 36 000 mecs et comment tu le vivais ça?
Alors après, tu sais, je pense qu'on peut pas maîtriser la pensée des gens. En fait, moi, forcément, ça me tenait à cœur d'essayer de pas brouiller le message, de montrer que j'étais là pour travailler. Donc au début, je voulais pas traîner dans les loges, tu vois, j'essayais un peu vraiment de mettre une distance. Mais en grandissant, je me suis aussi dit que, en fait, toi, tu te vois d'une certaine façon, mais tu n'as aucune maîtrise sur comment l'autre personne va te voir. Peut-être que tu seras un génie pour une personne et peut-être une meuf complètement débile pour un autre. Donc en fait, j'essayais juste, moi, d'être fidèle à mes valeurs, tu vois, de... Enfin, j'avais la dalle, moi, je voulais juste faire des photos, vraiment, au premier degré. C'était ça qui m'intéressait et c'était aussi rencontrer des gens, mais pas de manière intéressée, tu vois, de manière presque psychologique, quoi. Genre, j'adorais apprendre des gens, tu vois. Et en tant que femme, je me suis pas sentie... Enfin, il y a peut-être eu 2-3 fois, mais quand je te dis 2-3 fois, c'est vraiment peut-être en 5 ans, il y a eu 2 fois où j'ai senti vraiment des regards méprisants. Où... Ça m'est arrivé surtout avec des journalistes de presse. Pas dans le cadre du foot, parce que dans le cadre du foot, ceux qui sont là pour le Paris Saint-Germain, c'est souvent les mêmes. J'ai jamais eu de problème, même j'ai été hyper bien accueillie. C'est des mecs souvent qui ont plutôt l'âge d'être mon père, tu vois. Donc ça a été des mecs hyper bienveillants et tout. Par contre, pour le tennis, ça m'est arrivé une fois, parce que j'étais pas spécialiste pour shooter le tennis, même si ça m'était arrivé beaucoup de fois. Je connaissais pas trop la règle des photographes sur un terrain de tennis, tu vois. Genre, en vrai, il y a un endroit où tu dois laisser la place, tu restes un petit moment, après tu dois t'enlever, tu dois laisser aux autres. Et moi, je savais pas. Donc, en fait, à un moment donné, il y a 2 photographes qui viennent vraiment, qui m'agressent et qui me disent, mais tu travailles pour qui? Tu vois, genre, il me prend mon badge comme ça, il veut regarder pour quel média je travaille. Et il y avait pas, parce que moi, j'ai jamais eu de carte de presse et je travaille pas pour les médias. Je travaillais à ce moment-là, c'est parce que j'avais justement déjà shooté Federer et Wawrinka et je m'étais rapprochée des équipes. De leur équipe et tout ça. Et en fait, ils m'avaient dit, on passe à Paris, on va faire un tournoi. C'était dans Bercy à l'époque. Et du coup, ils m'ont dit, viens, on t'accrédite et c'est bien pour du contenu digital pour nous, si tu nous envoies et tout. Donc j'ai dit, non, mais moi, je viens parce que je travaille un peu avec la team Wawrinka et Federer. J'étais toute timide et j'étais en mode, pas sûre de moi. Et vraiment, ils m'ont dit, c'est ça, encore une pouffe et tout d'un des joueurs. Vraiment, ils m'ont regardé trop mal, vraiment. Et j'étais en mode, je suis partie en mode oh my god et tout, genre vraiment. Et j'avais honte, genre j'étais en mode merde, j'ai fait une connerie et tout. Enfin, et c'était pas cool, mais sinon j'ai jamais eu trop ce genre de truc. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû le penser, comme sur les réseaux, j'ai énormément de suspicions. T'es en couple avec lui, c'est pour ça que t'es là.
Ah ouais, j'avoue.
Ça, alors à tout va, franchement.
Ça, c'est chiant.
Étant la seule meuf, il y avait forcément une raison. sexuelle ou ouais, intéressée, tu vois, derrière ça.
Tu pouvais pas être là juste pour ton taf, quoi. Fallait forcément que...
Ouais, les gens, ils aiment bien, bah, les gens, ils aiment bien les potins, tu vois. Enfin, ouais. Dès qu'il y a une meuf, du coup, il y a des suppositions qui se créent. Ça, c'est humain. Enfin.
Ouais, c'est sûr. Et t'as déjà eu un jour une personnalité dont t'étais fan devant ton objectif. Comment est-ce que t'as réagi à ce moment-là, si ça t'est arrivé?
Alors, j'ai toujours adoré plusieurs artistes, mais j'ai jamais eu ce comportement. Enfin, j'ai jamais été fan. En fait, j'étais jamais allée à un concert. Enfin, non, si, je mens. J'avais fait un concert quand j'avais 13 ans, mais c'était Diams à l'époque, parce que j'adorais Diams. C'est la première rappeuse, même dans le rap, je pense, c'est le premier projet qui m'ont mis des claques. Et tu vois, j'avais 13 ans, 12 ans. Et en fait, je me suis évanouie parce qu'il y avait trop de monde. En fait, je suis un peu agoraphobe, moi. Mmh. Donc, en fait, les concerts, assez rapidement, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi, genre, voilà. Donc, j'écoutais des artistes, mais c'est tout, tu vois. Ça me suffisait d'écouter les disques à l'époque, en plus. Et je mettais ça sur ma radio et je kiffais de ouf et c'était tout. Il y a une personne où ça m'a fait peut-être, ça m'a un peu impressionnée la première fois que je l'ai vue, c'était Booba. Parce que Booba, c'était mon grand frère était fan, tu vois, donc il y avait un truc de c'est Booba. Et
ouais.
Physiquement, il est impressionnant, il a beaucoup de charisme et tout. Et il est ultra sympathique. Donc en fait, quand tu le rencontres, tu vois, t'as un peu d'appréhension, t'es en mode oh my god, comment est-ce qu'il va me dire quoi et tout. Donc moi, j'étais un peu stressée, mais c'était mon côté humain, tu vois. Je savais pas comment l'appréhender, donc je savais pas trop quoi dire. Et lui, il m'a hyper vite mis à l'aise en 2 secondes, okay, tu vois, genre ça va et tout, nan. Puis justement, j'ai fait quelques dates avec lui de sa tournée des Zéniths en 2018 à l'époque. Et il m'a fait un des plus beaux compliments en plus qu'un artiste pouvait me faire. C'est qu'il m'a dit, le lendemain du concert, il m'a dit « Ah, mais tu sais, maintenant, à chaque fois que je vois une photo de toi que t'as shootée sur les réseaux, j'ai même pas besoin de regarder les crédits, je sais que c'est toi qui l'as shootée. » Je suis en mode « Oh !» C'est un beau compliment, tu vois, de dire qu'on reconnaît ta touche.
Ouais, ta patte.
Ouais.
Ah, c'est trop gentil.
Ouais, vraiment. Donc oui, ça m'a... Booba, forcément, c'était impressionnant, mais il est tellement humain, il te met tellement vite à l'aise que t'oublies, tu vois. Enfin, il est hyper cool. Plus haut que toi, tu vois.
Au final, même les plus grandes stars ou quoi, ça reste des humains, quoi. Tout le monde...
Ça, oui, mais tu vois, en fait, pas tout le monde arrive à rester les pieds sur terre, et ce qui est normal, parce que quand tout le monde te traite avec admiration, et surtout plus t'es connu, et je te parle de joueurs internationaux, tu vois, même un Federer qui est connu partout dans le monde, qui a gagné des prix de ouf, qui est un joueur hyper humble. Lui, heureusement qu'il est humble, mais il n'y a pas tout le monde qui arrive à le rester, tu vois. C'est ça qui est dur. Enfin, je comprends quand tout le monde est là, oh my god, et tout, ils font tout pour toi. Toi, c'est ta nouvelle normalité, en fait, tu vois, d'être un peu
au-dessus. Oui, tu peux vite perdre pied et voilà. Et est-ce que tu penses que c'est important pour toi de garder une barrière professionnelle où il y en a maintenant qui sont devenus tes amis? Et comment tu sais mettre la barrière là où il faut la mettre ou pas?
Bah, au début, justement, j'essayais de faire grave attention. Et puis, hyper rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que justement, ce que j'aimais dans la photo, c'était le contact avec l'humain. Donc moi, je ne fais pas semblant. Donc quand je parle avec quelqu'un et que ça matche particulièrement bien, humainement parlant, bah, je ne vais pas me restreindre parce que je travaille avec toi. Justement, on fait des métiers libéraux. C'est cool, un métier libéral où on peut, tu vois, on crée avec nos émotions. Enfin, c'est spirituel, c'est beau, tu vois. Donc en fait, il y a forcément beaucoup de discussions qui font qu'on crée des liens. Donc franchement, je suis devenue... Enfin, tous les gens avec qui j'ai bossé sur du long, plus ou moins long terme, tous sont mes amis, tu vois, vraiment. Okay. J'ai forcément... Tu sais, j'ai traversé beaucoup de grosses choses avec eux. Je les ai connus, ils étaient moins... Enfin, ils n'avaient pas le succès qu'ils ont eu, qu'ils ont connu aujourd'hui. Du coup, tu vois vraiment toute cette évolution et ça rapproche.
Ouais,
vois,
c'est forcément, ça, vous vivez les choses ensemble et tu les vis encore plus fort.
Ouais, ça crée un lien avec cette personne et ce sera pour toujours, tu vois. Donc après, il y en a que j'ai un peu perdu de vue... Il y en a que je suis restée plus en contact que d'autres. Ça, c'est la vie qui en a décidé ainsi, tu vois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est vrai. Est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué dans ton parcours? Je sais pas, un événement de fou que tu as couvert, ou quelque chose de drôle, ou...
Bah, un des concerts les plus fous que j'ai fait, vraiment, c'était Coachella avec MHD. En vrai, c'était fou parce que... C'était aux États-Unis, c'est le plus grand festival. Enfin, c'est un des plus grands festivals, c'est celui qui est hyper connu, tout ça, médiatisé. Donc, avant d'y aller, je savais déjà ce que c'était, je voyais déjà sur les réseaux, j'y étais jamais allée, parce que je vais jamais à des festivals, si, sauf si c'est pour le travail. Du coup, c'était assez inédit, parce que c'était le premier rappeur français à le faire.
C'était quand? C'était en quelle année?
C'était 2018.
Ok.
2018, et c'était l'année où il y avait The Weeknd, enfin, les têtes d'affiche, c'était The Weeknd, Eminem et Beyoncé. Donc, c'était une énorme année, tu vois.
Ah ouais.
Et ce qui est trop bien à Coachella, c'est que quand t'as un pass artiste, t'es dans le village avec tous les autres artistes, sauf les têtes d'affiche qui ont des trucs privés, parce qu'ils sont trop, trop hauts, tu vois, dans la chaîne de la popularité. Ils ont trop même d'artistes fans d'eux, donc ils les séparent un peu du groupe. Et t'as tous les VIP, enfin, je sais pas si toi, t'es déjà allé à Coachella, mais tu vois, si t'as le bracelet All Access VIP, il y a aussi les célébrités qui sont artistes, mais qui se posent là-bas. Donc, c'était assez lunaire, tu vois, de te retrouver un peu au milieu d'Instagram dans la vraie vie, tu vois, parce que c'était ça.
C'est tellement Instagram dans la vraie
vie. C'était fou, tu vois, de se retrouver là. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à Coachella, le jour d'avant que ça commence, tous les gens qui travaillent pour le festival doivent aller dans un bureau retirer leur accréditation. C'est hyper surveillé, tu vois, tu dois amener ton passeport, ils scannent tes trucs, machin. Dès que ton badge, tu vas le biper, il y aura ta photo qui va ressortir. Enfin, c'est assez sécurisé. Et vraiment, c'était trop marrant le soir d'avant de faire la queue et tu voyais tous les autres artistes et les potes des artistes. Il y avait Tyga, il y avait des trucs comme ça. Tu vois, je voyais des artistes américains qui étaient là en train d'attendre. On était comme dans un gymnase. Enfin, c'était trop marrant. C'était lunaire. Et là, d'ailleurs, trop drôle, j'ai croisé le photographe d'Eminem.
OK.
Qui, en fait, à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a tagué sur Twitter qui m'a dit « Oh, Elisa, va regarder Jérémy Desputas. » Enfin, je crois que, je sais pas si je dis Desputas, il faut que j'aille regarder. Je sais plus comment on dit son nom de famille, mais bref. Et vraiment, ce gars, il me dit « Ouais, c'est un pote à Eminem. » Enfin, il le suit depuis des années. Ça me rappelle un peu ce que tu fais avec des artistes en France. Va regarder ce qu'il fait. Et du coup, je suis allée regarder. J'ai trouvé ça trop stylé. Je l'avais contacté. Il était hyper adorable. Genre, il m'a même mis en contact avec des médias américains pour poster de mon travail et tout. Il était adorable. Et du coup, je lui dis « Ah bah, je suis à Coachella. » Il me dit « Ah bah, moi aussi, tout, trop bien. » Donc, on s'est croisés à ce moment-là. On se croisait un peu. Ouais, c'était... Enfin, c'était vraiment assez fou, ce voyage Coachella, ouais.
Ouais, les États-Unis, quoi, de toute façon. C'est 10 fois plus grand que
ouais, c'est de ouf. Tu sais, tu galères France. À la fin du festival pour rentrer, donc t'es pas l'artiste. Mais il n'y a pas que toi qui galères. Genre, il y a Asap Rocky qui était affalé sur le parking parce qu'il ne trouvait pas son drive, tu vois. Genre, enfin, tout le monde est à la même enseigne. Même les artistes et les All Access, tu vois, genre, c'est galère, tu vois. L'organisation, il y a tellement de monde que, enfin, c'est énorme, quoi. T'es au milieu du désert, enfin, c'est hyper
grand. C'est vraiment une parenthèse de vie, Coachella, où tu comprends rien à ce qui t'arrive, mais juste t'es là, tu fais, tu kiffes, quoi.
J'ai trouvé ça angoissant, quand même, en tant que personne qui aime pas la foule.
Ouais, bah, le monde qui a... En plus, la poussière et tout.
La poussière, ouais, c'était assez fou. Mais, tu vois, je m'étais dit, vas-y, Elisa, tu vas profiter de certains concerts. Alors, je suis allée voir quelques concerts. Le premier week-end, non, c'était trop dur pour moi, il y avait trop de bruit. En fait, j'ai fait que le concert de MHD, après je suis rentrée dans notre bungalow. Le dernier week-end, parce que c'est sur 2 week-ends, là, j'ai essayé un peu d'assister au concert. Puis, tu vois, j'ai essayé de regarder le concert de Beyoncé. Et quand t'as un All Access, tu sais, t'as le premier crash barrière, il y a un espace pour les VIP et les autres artistes. Donc, t'es pas collé à la full. Donc, en vrai, c'était un peu plus chill. Et je me suis dit, bah parfait, là, je vais un peu mieux vivre le concert et tout. Et en fait, à Beyoncé, il y avait tout le monde. Donc, ça veut dire que même dans le crash, t'étais collé avec des gens super connus, mais en fait, tout le monde était serré. Et j'ai trop mal vécu ce concert. Enfin, j'ai fini par vomir et tout. Genre, vraiment. Je me sentais hyper mal. J'ai commencé à vomir. Et un gars de la sécu, il m'a vu direct, tac, tac, il m'a pris. Il avait un petit sachet plastique. Ils sont trop bien organisés. Tu vois, il m'a pris, hop, hop, il m'a mis sur le côté.
Oh, trop chaud.
Mais ouais.
Super. Beyoncé, t'as vu vomir finalement.
Non, my God. C'était gênant.
Ok. Et moi, je t'ai découvert grâce à une vidéo qui a fait le tour du monde, le tour
du monde. Ah, ça t'abuse.
C'est que j'ai vraiment vu. Hein. Je sais pas si vous qui nous écoutez, vous l'avez vu. Mais ton mari t'a demandé en mariage sur scène. Voilà, juste cette phrase. C'est juste ça. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et je pense d'ailleurs que ça a mis la barre très haute pour les mecs qui nous écoutent. Voilà, si vous voulez demander vos copines en mariage, faites mieux que ça. Bonne chance. Voilà, comment... Enfin, explique-nous, quoi, c'est fou.
Bah écoute, bah, moi, j'étais pas prévue. Enfin, je ne savais pas que ça allait arriver déjà à ce moment. Enfin, vraiment, j'ai été prise de court complètement. Donc, effectivement, quand tu me demandais est-ce qu'il y a des liens que tu te crées avec d'autres personnes, bah, un des derniers artistes avec lesquels j'ai collaboré, Riles, avec qui je bosse toujours, qui est devenu aujourd'hui mon mari... Tu vois, ça s'est fait naturellement. On s'est rencontrés en tournée. Je l'ai beaucoup épaulé au début de sa carrière parce qu'il était jeune, il venait de percer. Et c'était un peu tout nouveau pour lui. Moi, j'avais pas mal d'expérience, donc il était assez demandeur de conseils. Et
Ouais, tu l'aidais, tu l'aiguillais.
Je l'aidais, je l'aiguillais un peu. Je suis entrée un peu dans sa team. Et du coup, voilà, après, bon, on s'est rapprochés, tout ça. On est tombés amoureux. Et vient justement l'année 2022, la tournée des festivals. En fait, ce qui se passe, première date, tournée de festival 2022, je me casse le pied. Donc, le premier concert n'a même pas commencé, c'était juste avant les balances. Enfin, je sais pas, je traverse le festival, j'avais des claquettes compensées, je me tords le pied et j'ai hyper mal. Je crois que c'est une foulure, en fait. Je vais faire des radios et pied cassé, tu vois. Donc, je suis en mode, mais non, sérieux, au début de la tournée, machin. Et du coup, je peux plus prendre de photos parce que je peux plus me déplacer. Les premiers jours, mon pied me fait tellement mal, tu vois, que vraiment, même avec des béquilles, enfin, je souffre, tu vois. Et du coup, on me dit, bon, bah, on décide que vas-y, Elisa, tu vas t'occuper du contenu, réseaux sociaux, TikTok, story. Donc, en fait, tu te places dans le crash et tu ne bouges pas de tout le concert. Ouais. Et je prends des vidéos à l'iPhone.
Le crash, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit entre la scène et la foule.
Exactement. Au festival, il y a toujours un espace où il y a la scène, un espace, les barrières, où là, il y a en général les sécu qui sont là pour s'il y a des problèmes, il y a besoin d'évacuer des gens. En fait, c'est un peu le passage où les gens peuvent se faire évacuer. Et les photographes, c'est là où on se pose. Du coup, moi, j'étais là. Et voilà, je ne sais pas, vers le milieu de la tournée, fin milieu de la tournée, on arrive aux Vieilles Charrues, qui était la plus grosse date de notre tournée. Et Riles sait que j'ai un attachement particulier à ce festival parce que je suis allée avec beaucoup d'artistes là-bas. Ça a toujours été des méga beaux souvenirs. J'adore ce festival, c'est très familial et chaleureux. L'accueil du festival est vraiment top. Enfin, vraiment, c'est jamais une mauvaise expérience. Et bref, du coup, lui, il me dit juste, cette date-là, il me dit, à l'avant-dernier morceau, il y aura des feux d'artifice, donc... Enfin, des confettis ou je sais pas quoi. Il me dit, donc, ce serait bien que tu fasses du contenu depuis le côté de la scène. Il me l'a dit, essaie de te déplacer en avance parce que je me mets du temps à me déplacer vu que j'avais le pied cassé, tu vois. Par contre, cette date-là, c'était la première date où j'arrivais à marcher sans les béquilles, donc ce qui était cool. Et bref, à un moment donné, du coup, il m'appelle vers la fin du concert. Il me dit, elle est où, Elisa? Au micro. Et moi, je suis en mode, mais pourquoi il m'appelle? Il se rappelle plus que je me suis déplacée. Je me suis dit, peut-être qu'il s'inquiète, il me voit plus dans le crash, il s'inquiète. Et tout le monde lui dit, mais elle est là, et tout. Il lui montre le côté de la scène. Et en fait, il commence à me dire des vraiment trucs super touchants et gentils, et il m'appelle sur la scène. Et moi, je suis en mode, bon, on est vers la fin de la tournée, il a réussi de ouf son solo de guitare, je savais qu'il stressait un peu pour ça, le concert, c'est la fin, il est hyper content. Ça m'est arrivé qu'en fin de tournée, les artistes, ils appellent l'équipe. Enfin, c'est pas la première fois qu'on m'a fait venir sur scène parce que les gens étaient contents, en mode, ouh, voilà, ils nous présentent, et voilà, machin. C'est ma photographe et tout, genre ça m'est arrivé. Donc là, je me dis, bah, c'est peut-être ce qu'il veut faire, je sais pas, mais moi, à ce moment-là, en plus, vu que je m'y attends pas, je suis en claquettes chaussettes, shorts, gros suite de notre tourneur Astérios. Genre, enfin, je suis vraiment pas apprêtée, pas maquillée. Alors que les autres concerts, j'étais un peu cutie, tu vois. Je mettais des petites jupes, petites chemises, j'étais mignonne. Cette date, en fait, j'étais tellement comme chez moi que je me suis dit, reste schlag, sois bien. Moi, je privilégie toujours le confort, tu vois. À l'apparence, du coup, vraiment, là, j'étais schlag. Et du coup, il me fait venir sur scène et je comprends pas vraiment jusqu'au dernier moment ce qui est en train d'arriver. Je me dis, mais il me fait une décla, pourquoi il me fait une décla? Et je le regarde un peu et je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, surtout qu'on est assez pudique dans notre couple.
T'as les lumières, t'as la foule en face, ça doit être vraiment un moment de what the fuck, genre.
Ouais, je suis trop gênée, je marche comme ça à deux à l'heure parce que j'ai une attelle, tu vois, genre sur le pied, enfin... C'est un peu, le moment est un peu chaotique et j'essaie de me cacher avec mon capuchon. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde, tu fais quoi et tout, vraiment, genre. Et bref, en fait, c'est au moment où il touche sa poche que je me dis, ah, et je tilte. Ouais. Et je me dis, mais il est pas en train de faire ça quand même. Genre, vraiment dans ma tête. Je me dis, mais lui qui est comme ça, réservé sur notre relation, il va vraiment me demander en mariage devant tout le monde. Genre, ça m'a vraiment surpris. Il m'a vraiment surpris.
Ouais, tu m'étonnes.
Et c'est fou. Après, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mais on habite ensemble, on est ensemble tous les jours. Donc, tu sais, c'est pour que quelqu'un que tu connais et qui te voit tous les jours te surprenne, c'est bien joué. Tu vois, je t'envoie toi, t'es bien joué. Et c'est trop beau. Il m'a dit un truc à la fin. Il m'a dit, pour moi, c'était important que, de un, je te présente à mon public officiellement.
Oh, c'est trop chaud.
Et aussi que je fasse corps avec le premier amour de sa vie, qui est son travail, sa musique. Tu vois, les artistes. C'est plus fort qu'eux, tu vois, la création. Et du coup, c'était très beau de mêler un peu ce côté vie privée et vie professionnelle. C'était symbolique pour lui. Donc voilà, donc j'étais très surprise et puis et en même temps c'était effectivement magnifique.
Ouais.
Après, peu importe la manière dont les hommes ou les femmes d'ailleurs demandent en mariage leur compagnon, c'est pas que les hommes qui peuvent le faire. Tant qu'en fait c'est sincère et que c'est symbolique pour les gens, nous on s'est rencontrés sur scène la première fois que je l'ai vu.
Oui, ça avait du sens pour vous quoi.
Voilà, je l'ai rencontré, je l'ai shooté à un concert à l'époque, tu vois, enfin tout était la boucle est bouclée, il y avait un truc d'hyper poétique. C'est vrai que quand tu le racontes comme ça, ça fait un peu rêver, mais moi j'avais même pas rêvé parce que c'était juste, c'est arrivé spontanément, enfin c'était beau parce que c'était vrai, tu vois.
Ouais, c'était votre quotidien et c'était normal. Ouais. Et c'est... Non, c'est vrai, mais c'est trop beau. Comme...
Je l'ai fait un peu à rallonge, l'anecdote, mais...
Non, mais c'est beau, c'est vrai que le message derrière est hyper, ouais. Bah, hyper touchant.
Bah, l'adrénaline, après le moment, où je comprenais rien. Enfin, vraiment, quand je suis retournée sur le côté de scène et il a fait son dernier son, tout le monde venait vers moi, waouh, toute notre équipe, tu vois. Et moi, je suis en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer et tout. Genre, what the fuck, genre, vraiment, je suis en mode,
tu m'étonnes. Ouais. Bah, félicitations, écoute.
Merci, merci.
Du coup, on va arriver vers la fin du podcast. Mais avant, je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression de travailler ou pas, vu que bah, c'est ta passion et que tu gagnes quand même ta vie avec ça? Est-ce que tu vois ça comme un travail?
Alors, au début, pas du tout. Au début, à aucun moment, j'avais l'impression que je travaillais. J'avais l'impression même que j'avais un cheat code. Je suis en mode, oh, mais en fait, je fais un truc que j'aime trop et à la fin, on me donne de l'argent. Mais c'est quoi ce truc? C'est génial, moi. Je pensais que travailler, il fallait souffrir, c'était chiant. Genre, t'avais pas envie d'y aller le matin, tu vois, enfin... Du coup, j'ai trouvé ça fou. Après, maintenant, avec de l'expérience, et ça fait 10 ans que je le fais, je conscientise que c'est du travail, tu vois. Donc, oui. Mais je n'ai toujours pas cette sensation de « j'ai pas envie d'y aller » ou tout ça. Des fois, j'ai des appréhensions parce que j'ai peur de pas bien faire, de pas réussir un shooting ou pas réussir à choper la photo qu'il faut. Mais ça, c'est du bon stress,
ouais,
tu vois.
Oui, c'est ça. C'est nécessaire à qu'au final, tu travailles bien et que ça te challenge encore
exactement.
Plus.
Exactement. Mais non, j'ai toujours pas l'impression vraiment que c'est un travail.
Ouais, je pense que c'est le meilleur travail que t'as trouvé, c'est que t'as l'impression que tu bosses pas, quoi.
Oui, et c'est pour ça aussi, en fait, que j'ai changé aussi, parce que j'ai voulu passer à quelque chose de plus féminin, m'éloigner du monde du rap et du foot, parce que c'est pas que je sentais que j'avais fait le tour, mais tu sais, il y a toujours des nouveaux artistes, il y aura toujours des nouveaux... Et je me suis dit, là, j'ai appris tellement de ce milieu, et là, j'ai envie de me rapprocher vers des photos qui sont différentes. Et tu vois, de shooter un footballeur ou un rappeur qui n'est pas modèle, qui de base n'est pas forcément à l'aise avec le fait qu'on les prenne en photo, c'était un challenge de fou, tu vois. Réussir à faire des belles photos de mecs qui sont pas à l'aise, alors que quand j'ai shooté des mannequins, les meufs, elles savent comment se placer, elles sont magnifiques, enfin, c'est un autre job. Genre, je suis en mode, waouh, mais tu me facilites la tâche. Tu es magnifique, j'ai l'impression que j'ai besoin de rien faire, tu vois. À part avoir une bonne team de stylisme, make-up, tout ça, genre assistant light. Mais c'est presque un autre métier. Et j'avais envie de changer, justement, pour pas m'ennuyer. C'était important.
Et c'est quoi, toi, que tu aimes dans la photo qui t'anime vraiment dans créer, capturer un moment
Bah justement, alors... Quand c'est du live ou les matchs de foot ou les concerts, c'est vraiment capturer le moment, l'émotion du concert. C'est hyper important parce que ça fait ressentir énormément d'émotions à un concert ou un match de foot, je l'ai compris, en le vivant de si près. Tu vois, quand t'es dans le crash barrière, comme je dis, collé à la scène ou sur le bord du terrain, tu te rends compte de... Même si t'es pas fan de foot ou fan de rap, je pense que tu ressens forcément cette adrénaline et cette émotion et c'est beau, tu vois. Le foot, pour moi, c'est de l'art. Enfin, des fois, quand je vois les joueurs faire des trucs techniques, c'est beau, tu vois, t'es en mode « Waouh, mais purée, c'est un talent de fou et tout ce que tu fais avec tes pieds, genre vraiment !» Tu vois, et les artistes, pareil, avec leurs mots, leur musicalité. Et quand maintenant, je shoote plus de la mode, c'est la collaboration avec les gens, que ce soit avec la modèle, avec la styliste, avec la make-up artiste, le coiffeur ou la coiffeuse, c'est vraiment ce truc de « Viens, on essaye ensemble de créer une méga belle image dont on est tous fiers. » Enfin, tu vois, toi, ta spécialité, c'est de faire les cheveux, le make-up, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, la styliste. Enfin, c'est ça que j'aime, tu vois, c'est ce travail d'équipe où à la fin, on a créé un petit bébé, c'est une image, tu vois, et on est en mode, on est tous fiers.
Ouais, c'est
ça,
comme un tableau que tu composes à plusieurs, quoi.
C'est ça.
Et pour finir, dernière question, qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux personnes qui aimeraient se lancer dans une aventure, mais peut-être qu'on a peur du regard des autres, peur parce que bah, c'est difficile, t'as pas les contacts, t'as pas les trucs, peur de ce que vont penser les proches?
Bah, je pense que déjà, il faut trouver vraiment la chose qui te passionne. Parce que quand tu l'as trouvée, c'est beaucoup plus facile d'avancer comme un bulldozer et de ne pas forcément calculer les choses autour. Après, il faut se dire, le regard des gens, pendant longtemps, moi, j'en ai eu peur. Mais quand tu réalises que les gens, ils s'en foutent. Enfin, tu sais, t'as un détail dans leur vie. Tout le monde a un peu une vision égocentrée de la vie. Moi, je vais voir la vie à travers mes yeux, toi, à travers tes yeux. Donc forcément, tu vas plus faire attention à toi, à ce que tu crées, à l'image que tu dégages, comme moi aussi, pour moi-même. Donc en fait, tout le monde est centré sur lui. Donc des fois, t'inquiète, les gens, ils s'en battent le steak, tu vois. Genre vraiment, fais ton truc. Au pire, de toute façon, des critiques, que tu sois la meilleure personne au monde et tu fais avec les meilleures intentions, tu peux avoir des critiques. Personne n'est à l'abri de ça parce que c'est Internet, c'est le game, tu vois. Tu peux attirer n'importe qui dans le positif comme dans le négatif. Et souvent, en plus, c'est des enfants, enfin, c'est des jeunes qui écrivent des trucs un peu violents, souvent, bizarrement.
Mais t'en as partout, quoi.
T'en as partout, de tout âge, en vrai. Mais donc, faut se dire, continue. Vraiment, la longévité, tenir le coup. Même si des fois, tu travailles pendant 6 mois comme un ouf en tant que créateur de contenu, photographe, au fait, peu importe quoi. Et tu récoltes pas encore les fruits, mais des fois, ça met 3 ans. Mais t'inquiète que si tu lâches pas, ça va arriver. Pour moi, c'est logique. Ça va arriver. Après, il faut pas se mentir à soi-même. Justement, il faut trouver son sujet, ce qui te passionne profondément, parce que si tu fais semblant, ça va se voir.
Oui, c'est ça. De toute façon, je pense que si tu dois travailler 1 an, 2 ans, 3 ans sur quelque chose, faut que ça soit la passion. Sinon, toi-même, tu vas décrocher, tu vas être en mode... Enfin, tu vas pas le faire à fond et ça va se voir et ça va pas marcher. Donc
oui, si tu le fais pour la fame et tout ça, ou pour d'autres raisons, pour être proche de certains artistes, ça va pas fonctionner. Mais voilà, réussir à trouver sa voie, pas lâcher, continuer et prendre soin de soi. Parce que prendre soin de soi, ça va te permettre de rester dans la longévité. Mm-hmm. Parce que la vie, c'est un marathon, tu vois, c'est pas juste une course de...
Ouais, c'est ça.
Une course comme ça où hop, après c'est terminé et tout, tu dois toujours prouver. Et même si t'as travaillé toute ta vie et t'as été reconnu, en fait, ça s'arrête jamais, tu vois. C'est ça qui est beau dans l'art, c'est que c'est infini. Faut pas se enfin, c'est important de toujours se renouveler et de créer, peu importe où t'es arrivé.
Ok, ben c'est une très belle phrase de fin. Merci beaucoup, Elisa, d'être venue dans mon podcast raconter ton expérience, ton métier et tout. C'était hyper intéressant.
Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Vraiment, t'es adorable et c'est super. J'irai écouter tous les autres podcasts.
Voilà. Et puis, vous aussi, si vous n'avez pas écouté les autres podcasts, allez-y. Et puis sinon, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.
Cordialement.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.